Tout à l'heure, il n'avait pas su davantage où il allait. Pourtant, il s'était donné la peine de prendre une allure énergique. À présent, c'était sans même se soucier des apparences qu'il errait dans les rues. « Je suis ce qu'on appelle dans les journaux une loque humaine, » murmura-t-il. Il s'avançait à gauche, à droite, n'obéissant qu'à des impulsions. Parfois, il faisait le tour d'une place et, sans s'en apercevoir, revenait sur ses pas. De même que les douleurs d'un empoisonnement, comme des coups de marteau, résonnent en nous à intervalles réguliers, de même le souvenir du crime affreux qu'il avait commis frappait son esprit. La respiration lui manquait alors. On eût profité de l'un de ces moments pour l'appréhender qu'il n'eût pas tenté la moindre résistance. La ville semblait abandonnée. Il se trouvait dans une avenue déserte et rien n'était plus triste que le sifflement du vent à travers les arbres. Par leur moindre éclairage, des rues transversales le sollicitèrent. Mais l'instinct encore intact de cette épave lui commandait de ne pas se cacher, de faire le promeneur attardé. Ainsi ballotté, il atteignit, sans savoir comment, la place Beauvau. La proximité de l'Élysée le tira de sa torpeur. « Ah ah ! » dit-il toujours à haute voix, « c'est un spectacle qui ne manque pas de grandeur que ce mur. » Il faisait allusion à celui qui, le long de l'avenue Marigny, protège les jardins du palais présidentiel. Oui, à celui qui saurait pénétrer le fond des choses, ce mur, à cet instant précis, parlerait. Ne sépare-t-il pas, de sa manière inerte et imbécile, les deux hommes entre lesquels viennent prendre place tous les Français, les deux hommes les plus éloignés l'un de l'autre qui soient, le président de la République et moi? L'un a toutes les vertus, l'autre n'en a aucune. L'un est l'honneur, la droiture. L'autre, le crime, la débauche. Mais Arnold ne s'attarda pas davantage sur ce contraste. Il était trop fatigué pour réfléchir longuement sur un même sujet, d'autant plus qu'il venait de lui apparaître qu'il ne saurait pas quoi répondre à celui qui lui demanderait ce qu'il faisait à pareille heure aux abords de l'Élysée. Toutes les réponses qui lui vinrent, il les trouva peu plausibles. Parfois, à un croisement de rue, un sergent de ville attirait son attention. Sans faire le moindre détour, la volonté tendue, l'air indifférent, mais tremblant de peur, il s'imposait de continuer son chemin, comme s'il n'était qu'un simple promeneur, et lorsqu'il arrivait à la hauteur de l'agent, le visage contracté, les mains mouillées de sueur, il regardait en souriant le représentant de l'autorité, qui, d'ailleurs, lui répondait avec amabilité. Ah, quelle joie il éprouvait quand il surprenait un agent, soit en train de fumer une cigarette, soit en conversation galante, soit encore à la porte d'un bar, un verre à la main. Comme il savait alors, par un signe, mettre à l'aise le délinquant. Était-ce le confus désir de grands espaces, mais Arnold se dirigea vers l'avenue des Champs-Élysées. Il n'en pouvait plus. Pourtant, pas une fois, il ne lui était venu à l'esprit que son calvaire pût prendre fin. Il s'engagea dans une des allées du jardin qui s'étend le long de l'avenue Gabriel. De hauts lampadaires éclairaient lugubrement les pelouses. De temps en temps, il s'arrêtait, cherchant des yeux un abri où il pourrait se réfugier jusqu'au lendemain. Il s'approcha d'un petit manège. Mais aucune bâche ne dissimulait les chevaux de bois. À travers les bosquets, il aperçut soudain les phares d'une automobile. Comme il eût voulu fuir, ainsi que ses lumières légères. Puis, avec une décision qu'il regretta aussitôt, il fit demi-tour. Au bout de l'allée, une ombre s'était avancée vers lui. Il ne se retourna pas. Il avait une envie folle de courir, mais, encore une fois, l'instinct l'en empêchait. Ne se fût-il pas trahi en le faisant ? Quand on n'a rien à se reprocher, on ne se sauve pas, pensa-t-il. Il activa cependant l'allure, si bien que 20 mètres plus loin, il courait presque. Comme l'écho de ses propres pas, les pas de l'inconnu retentissaient toujours à ses oreilles. À la hauteur de l'Alcazar, il crut distinguer, dans un buisson, un homme qui se dissimulait. « Je suis cerné, » murmura-t-il, comme quand il était enfant et qu'il jouait avec des camarades. Des bruissements de feuilles s'élevaient de tous côtés. Au tournant du dallé, il se trouva brusquement face à face avec deux promeneurs qui semblaient converser. Il s'arrêta pétrifié. Derrière lui, l'inconnu continuait à marcher. Arnold eut alors nettement le sentiment qu'il était tombé dans un piège. Où qu'il se dirigerait, des policiers se dresseraient devant lui. Sans prononcer une parole, il se contenterait de lui barrer la route. Et ce ne serait que lorsque, épuisé de se heurter partout à un obstacle, il s'arrêterait ainsi qu'une bête traquée, au centre d'un cercle qui, à chaque seconde, se resserrerait davantage, que tous ensemble prendraient la parole pour lui dire « Nous vous arrêtons ». Un éclair de lucidité l'obligea de convenir qu'il était bien invraisemblable que ces promeneurs mystérieux fussent de la police, car le hasard seul l'avait conduit en ces lieux. L'inconnu se rapprochait toujours. Quant aux deux hommes, ils s'éloignaient lentement en allumant chacun une cigarette. Arnold songea à les suivre, à les dépasser, mais brusquement, il changea d'avis. Enjambant les arceaux qui bordaient l'allée, il traversa une pelouse, toujours sans courir ni se retourner, à grands pas, simplement, puis il remonta l'avenue des Champs-Élysées. Il venait d'arriver aux abords du Grand Palais lorsqu'il crut qu'il allait perdre connaissance. Un homme était à son côté. Arnold s'engagea sur la chaussée et, bien qu'il n'y eût aucune voiture, prit le pas de gymnastique comme pour éviter d'être écrasé. « Police !» dit tout à coup l'homme en le retenant par le bras. Grand et fort, il était convenablement vêtu et portait un chapeau de feutre dans le ruban duquel était glissée une plume. Une épingle, représentant un fer à cheval, était plantée dans sa cravate. Il avait des gants de coton noir, un pardessus à martingale trop haute. Il était vraiment en civil. « Est-ce que vous avez essayé de fuir ?» demanda l'inspecteur. « mais non !» balbutia Arnold, qui avait complètement perdu la tête. « Vous n'avez pas essayé de fuir ? Vous prétendez que vous n'avez pas essayé de fuir ? Est-ce que par-dessus le marché, vous avez l'intention de vous moquer de moi ? Non, non, je vous assure que non. Vous trouvez que votre cas n'est pas assez grave comme cela ? Allons, suivez-moi, vous vous expliquerez devant le commissaire de police. » « Mais qu'ai-je donc fait ? » demanda Arnold avec une naïveté simulée, car devant le danger, il avait recouvré son sang-froid. « Est-ce que vous ignorez, par hasard, qu'il est défendu de traverser les pelouses ?»« Je n'ai pas traversé de pelouse, » répondit Arnold inconsidérément. « Montrez-moi vos papiers. »«
Mes papiers ?»«
Oui, vos papiers. »«
Quels papiers ?»
Il venait d'apparaître à notre héros qu'il était pris et que la seule chance de salut qui lui restait était de feindre la candeur, la jeunesse, afin de gagner les bonnes grâces du policier, quitte à profiter du premier moment d'inattention de ce dernier pour s'esquiver. « Je vous ordonne de me montrer vos papiers d'identité. »«
Mais certainement, » répondit Arnold, sans toutefois mettre la main à sa poche.
« Qu'est-ce que vous attendez ?»
Arnold ne put faire autrement que d'obéir. Le policier s'approcha d'un lampadaire pour les examiner.
« Vous êtes de la classe 21 ?» demanda-t-il d'un ton soupçonneux au bout de quelques instants.
« Oui. »
« Votre âge, pourtant, ne correspond pas à celui des jeunes gens de cette classe. »«
J'ai été ajourné deux fois. »
« C'est bien, c'est bien. Voulez-vous me dire maintenant ce que vous faites ici à pareille heure ?»«
Je rentrais chez moi. »
En voyant que le policier n'avait chicané que sur son âge, Arnold avait repris de l'assurance. « Vous rentriez, c'est vous qui le dites. Avouez plutôt que vous cherchiez une bonne fortune. Quels sont vos moyens d'existence ?»«
Ma famille me verse une pension. »«
Elle est bien généreuse, votre famille. Et combien vous verse-t-elle »«
Suffisamment pour vivre. »«
C'est vous qui le dites. »«
Parfaitement, c'est moi qui le dis. »«
Est-ce que vous avez l'intention de garder ce ton encore longtemps ?»
« Quel ton ?»«
Assez, suivez-moi, vous allez vous expliquer au commissariat. »
La peur envahit de nouveau Arnold.
« Mais on m'attend !»«
Vous n'aviez pourtant pas l'air bien pressé. »«
On m'attend, je vous le jure !»«
Encore une fois, assez, je n'ai pas à entrer dans ces détails, suivez-moi. »
Les deux hommes se mirent en marche. Arnold n'avait qu'une pensée, profiter de la première occasion pour fuir.
mais, à l'Alma, son compagnon parut hésiter sur la route empruntée. Le jeune homme fit semblant de ne pas s'en apercevoir et, patiemment, attendit que le policier se décidât. Finalement, ils revinrent sur leurs pas. « Vous vous étiez trompé de chemin ?» demanda innocemment notre héros. « Non, je ne me suis pas trompé de chemin. Pourtant, nous revenons sur nos pas. Je le sais. Je ne comprends pas. Naturellement, on ne comprend jamais qu'on puisse inspirer de la pitié. Je vous inspire de la pitié, moi ? Une très grande pitié. Vous vous êtes pourtant mis dans un bien mauvais cas. Qu'ai-je donc fait ? Ne jouez donc pas comme cela avec le feu. C'est très dangereux. Et ce conseil, je ne vous le donne que parce que votre personne m'est très sympathique. Je voudrais que vous me disiez ce qu'on me reproche. Ne faites pas le naïf. Vous savez très bien ce que vous êtes venu chercher dans les bosquets de l'avenue Gabriel. Un mauvais coup, n'est-ce pas ? Malgré la douceur avec laquelle lui parlait le policier, Arnold se défiait de lui. Il y avait quelque chose en cet homme qui lui déplaisait, mais il n'eût su dire quoi. « Je vous ai déjà dit que je rentrais chez moi. »« Vous faisiez bien des détours, pourtant, » continua l'inconnu. « Non, jeune homme, il ne faut pas essayer de financer avec moi. J'en ai vu de beaucoup plus malins que vous, et j'ai toujours eu le dernier mot. Soyez raisonnable. Si je vous parle ainsi, c'est dans votre intérêt. Faites que je n'ai pas à le regretter. » Cette fois, Arnold fut touché par ce langage. Brusquement, il se souvint de ce crime que la peur et l'instinct de conservation lui avaient fait oublier. Il avait fallu qu'il perdît la tête pour répondre dans la situation où il était avec tant d'insolence. « Pardonnez-moi, monsieur, je ne savais pas ce que je disais. J'étais nerveux. Je ne m'étais même pas aperçu que vous me parliez avec douceur. Si vous saviez le bien que vous me faites en me témoignant un peu de sympathie, merci, merci encore. » Ne me remerciez pas, c'est tout naturel. J'ai eu pour vous, soudainement, sans que je puisse m'en expliquer la raison, de l'amitié. Vous voyez que je n'y suis pour rien. J'ai eu conscience que vous étiez malheureux, que vous aviez besoin de sollicitude, de tendresse. C'est tout. Aussi ne serais-je pas exigeant. Écoutez-moi, il y a toujours moyen de s'arranger. Je vois que vous n'êtes pas riche. Donnez-moi ce que vous avez sur vous et je vous rends votre liberté. « Je n'ai rien, malheureusement. »« Mais si, vous avez bien un petit peu d'argent. Il y avait un moment déjà que vous rôdiez dans les bosquets. Vous avez dû ramasser un billet de 10 francs par-ci, un billet de 10 francs par-là. Vous êtes tellement joli garçon. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne suppose pas que vous teniez à aller en prison. » Arnold regarda son compagnon. Il lui apparaissait à présent sous un tout autre jour. Le chapeau en arrière, le pardessus à martingale ouvert, il avait les mains dans les poches de son pantalon. Quelque chose du dévoyé, du voyou, émanait de lui. Il porta une cigarette à sa bouche et, à la façon dont il abrita la flamme de l'allumette, Arnold sentit qu'il avait beaucoup vécu en plein air. « Je vous répète que je n'ai pas d'argent. » L'inconnu changea brusquement. « Ah, si vous le prenez sur ce ton, c'est différent. Très bien. » « Je vois que je me suis trompé. Eh bien, vous allez me suivre. »« Vous suivre ? Oui, au commissariat. » De nouveau, la morgue d'Arnold disparut. La peur coupa sa respiration. Avec fixité, il regarda son compagnon. Était-il ou n'était-il pas de la police ? Mais en même temps qu'il essayait de répondre à cette question, il se sentait incapable de percer ce mystère. Comme dans une situation de rêve où son sort eût dépendu de la connaissance d'un détail insignifiant, les obstacles qui s'opposaient à ce qu'il devinât la vérité se faisaient de plus en plus grands. Subitement, l'inconnu changea de ton. « Soyons donc des amis, » dit-il en prenant Arnold par le bras, « non pas comme un policier, mais comme un amoureux. Vous n'avez rien à craindre. Je vais vous dire la vérité, je ne suis pas de la police. » « Je le savais, » répondit notre héros, qui, mis ainsi sur la voie, n'en douta plus. « Ce n'est pas une raison pour faire le malin. N'oubliez pas que c'est moi qui vous dis que je ne suis pas de la police. Mais j'en suis peut-être. » « Que signifient toutes ces réticences ? Oui ou non, êtes-vous de la police ? » Si vous continuez à vous montrer aussi arrogant, je ne vous parlerai plus à cœur ouvert.
Qu'est-ce que vous me voulez, alors ?
J'ai besoin de vous, c'est tout. Je désire que vous deveniez mon ami.
Pourquoi ?
Ne soyez donc pas tellement impatient. Vous allez le savoir.
Arnold n'était qu'à demi rassuré. Il se demandait si tout ce manège n'était pas destiné à le mettre en confiance, à seule fin de lui arracher quelque aveu.
L'homme qui est devant vous, continua l'inconnu, est tout simplement une fripouille. Et si cette fripouille vous parle ainsi, c'est que votre jeunesse et votre naïveté lui inspirent de la sympathie. La nuit, lorsque tous les honnêtes gens sont couchés, je commence mon travail. Et ce travail consiste à faire le faux policier. Je parviens ainsi à gagner de quoi vivre. Mais il est une chose que vous ignorez. En travaillant seul, comme je suis obligé de le faire, car je n'ai pas un ami assez sûr pour être mon complice, je ne réussis à intimider que de pauvres imbéciles comme vous. Tout à l'heure, j'ai compris que vous étiez l'homme qu'il me fallait. Aussi vais-je vous poser une question. Mais auparavant, je tiens à ce que vous sachiez que mon métier, intelligemment pratiqué, peut nous assurer une existence large et exempte de soucis. Voulez-vous devenir mon associé ?
Pourquoi faire ?
Pour faire chanter tous ceux dont la conscience n'est pas tranquille, tous ces malades qui peuplent la nuit les allées des Champs-Élysées, du Trocadéro, du Bois de Boulogne, des Tuileries. Au moment opportun, nous nous approchons d'eux, nous leur demandons leurs papiers, nous les prions de nous suivre. Mais en cours de route, nous acceptons ce qu'ils nous offrent pour leur épargner le déshonneur. Est-ce que vous me comprenez, à présent ?
C'est abominable.
Au commencement, peut-être, mais avec l'habitude, cela vous paraîtra comme à moi tout naturel. Cette proposition avait d'abord scandalisé Arnold. Mais le parti qu'il pouvait en tirer n'avait pas tardé à lui apparaître. Dieu ne lui donnait-il pas ainsi, par l'intermédiaire de cet immonde personnage, la possibilité de faire une belle action, de se racheter en quelque sorte ? L'occasion était inespérée. En dénonçant ce bandit, n'allait-il pas s'attirer la sympathie, l'indulgence, la pitié de tous ? Sa faute, comme elle paraîtrait peu de choses. Son cœur débordait de joie. Il se voyait déjà recevant les félicitations des vrais policiers. Il n'était donc pas l'homme qu'on croyait, puisqu'il avait refusé cet odieux marché. Il y avait pourtant une ombre à son bonheur. Qu'adviendrait-il si tous les deux venaient à être arrêtés avant qu'il ait eu le temps de livrer son pseudo-complice ?
« Oui, j'accepte, » dit Arnold, sans plus réfléchir à cette éventualité.
« Vraiment ?
Je n'ai qu'une parole. »
C'est bien, serrons-nous la main.
Soudain, au milieu de ses effusions, l'inconnu mit un doigt sur ses lèvres.
Retournez-vous, chuchota-t-il.
Arnold obéit. Il aperçut, à une cinquantaine de mètres, un homme d'aspect élégant descendre d'une automobile, puis, après avoir jeté un regard furtif autour de lui, s'engager délibérément dans un bosquet. Aussitôt après, venu on ne sait d'où, une femme le suivit.
« C'est le moment d'agir, » dit l'inconnu.
« Déjà ?
Vous avez peur ?
Pas particulièrement.
D'ailleurs, vous n'aurez qu'à me laisser faire. Vous vous tiendrez à quelques pas derrière moi et vous n'approcherez que lorsque je vous appellerai. Si, par hasard, vous voyez du monde, vous n'aurez qu'à siffler. Je saurai ce que cela veut dire.
Mais si l'homme refuse de vous montrer ses papiers ?
C'est justement à ce moment que j'aurai besoin de vous.
Et s'il appelle au secours ? Et si on nous arrête ?
Ne craignez rien, il n'appellera pas au secours. Il aura bien trop peur d'un scandale. Mais assez palabré, le temps presse.
Sans la moindre hésitation, le maître chanteur s'engagea sur la trace du couple.
« Ah, j'oubliais, » dit-il en revenant sur ses pas. « Comment vous appelez-vous ? »
« Arnold. »
« C'est bien, suis-moi, Arnold. »
Ce dernier hocha la tête en signe d'acquiescement. Il venait de faire quelques pas lorsque, brusquement, il songea à faire demi-tour, à fuir. L'inconnu était peut-être, quoi qu'il en dît, vraiment de la police. Et le promeneur qu'il s'apprêtait à détrousser en était peut-être également. Mais le désir de faire une belle action chassa ce soupçon.
Une si belle occasion ne se représentera sans doute plus jamais, pensa-t-il. Quelques secondes après, il disparaissait à son tour dans le bosquet. Tout était obscur autour de lui. Il n'était, malgré tout, pas très rassuré. Soudain, des éclats de voix vinrent à ses oreilles. Il s'arrêta, retint son souffle pour écouter. « Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes de la police ?» disait une voix. « D'ailleurs, même si vous en êtes, vous n'avez pas à me demander mes papiers. Ce jardin est un lieu public. J'ai le droit de m'y promener à toute heure avec qui il me plaît. Montrez-moi donc votre insigne. » « Vous allez me suivre avec madame, » répondit le faux policier. « Si vous avez des explications à donner, vous les donnerez au commissaire lui-même. Je ne fais qu'exécuter les ordres qui m'ont été transmis. »« Savez-vous seulement qui je suis ?»« Cela ne me regarde pas. »« Vous allez le savoir. » À ce moment, notre héros s'entendit appeler. « Arnold, Arnold, viens un peu par ici. » Il hésita un instant. Mais le désir de lui montrer la beauté de son âme s'empara de nouveau de lui. Son salut n'était-il pas en jeu? Il ne devait par conséquent plus reculer. « Je vais prendre tout de suite la défense du promeneur. Nous serons deux. Je n'ai donc rien à craindre, » pensa-t-il. Cette belle action dont il rêvait depuis des heures allait enfin exister dans un instant. Il s'avança. La lumière d'un lampadaire éclairait, à travers les feuilles, une scène étrange. Un homme, mis avec recherche, gesticulait, protestait de son honorabilité, s'interrompait parfois pour dire quelques mots à la femme qui l'accompagnait, cependant que le maître chanteur, impassible, faisait comprendre de temps à autre par un geste que toutes les paroles du monde ne le convaincraient pas. « C'est toi, Arnold ?»«
Oui. »
« Donne-moi un coup de main, il faut conduire ce beau monsieur chez le chef. » Notre héros ne bougea pas. « Qu'est-ce que tu attends ?» Il ne répondit pas. Le faux policier le regarda avec étonnement. « Tu n'as pas compris ?» Alors, tout à coup, Arnold devint un autre homme. « Vous n'avez pas honte de faire ce que vous faites ? » cria-t-il d'un trait. « Je vous le demande, c'est vous qui allez me suivre au commissariat. Vous m'entendez ? C'est vous ! Vous êtes un imposteur. » À ce moment, le jeune homme se tourna vers le noctambule dont il venait de prendre la défense. Mais à peine l'eut-il regardé qu'un gémissement sortit de sa bouche. Il venait de reconnaître l'automobiliste qui, au coin d'un passage, avait supplié qu'on lui laissât emmener la fillette. « Comment, c'est vous ? » fit le jeune homme stupéfait. « Oui, c'est moi, » répondit le promeneur, qui, à son tour, avait reconnu notre héros. « Je vois que vous êtes un spécialiste. Ce que je vous ai donné ne vous a donc pas suffi. Qu'est-ce que vous me voulez encore ?» Mais Arnold était trop bien parti pour ne pas recouvrer aussitôt son sang-froid. Il continua sans tenir compte des paroles du promeneur. « Vous êtes tombé, monsieur, entre les mains d'un bandit. Il aurait voulu que je me fasse son complice. » « Mais il ne me connaissait pas. Nous allons, si vous le voulez bien, le remettre à la police. Nous débarrasserons ainsi la société d'un individu dangereux. »« C'est inutile de vous donner le mal de jouer la comédie. Je ne suis pas dupe. Une fois suffit. Mais laissez-moi vous dire que, si vous continuez ce métier, il vous arrivera un jour des désagréments. »« Comment, vous doutez de moi ? C'est ainsi que vous me remerciez ? Vous voulez laisser ce bandit agir impunément ? » Pendant ce dialogue, le faux policier s'était ressaisi. Coupant la parole à Arnold, il dit « Décidément, jeune homme, je ne plaisante plus. C'est vous qui allez me suivre. Tenez, regardez ceci. Cela va peut-être vous ramener à de meilleurs sentiments. » Il tira une carte de sa poche. « J'ai eu pitié de vous. J'ai cru que vous vous repentiez et que vous ne demandiez plus qu'à nous servir. » « Je me suis trompé. Cela arrive au meilleur d'entre nous. Cette fois, je ne vous épargnerai pas la prison. » Se tournant vers le couple, il continua. « Vous êtes libres, monsieur et madame. Je m'excuse de vous avoir dérangé, mais il le fallait pour mettre à jour les intentions de cet individu. » Au même moment, plusieurs coups de sifflet retentirent. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Arnold, tremblant de peur. Personne ne lui répondit. Des bruits de voix, des pas, des aboiements arrivèrent aux oreilles du groupe. « C'est la police !» s'écria le promeneur. « Ah, jeune homme, vous allez pouvoir vous expliquer. J'en suis ravi !» Mais ce ravissement devait être seulement pour le principe, car sans même adresser un mot à sa compagne, il disparut au pas de gymnastique. Arnold regarda le faux policier. Ce dernier ne s'occupait plus de lui. Se penchant, tantôt à gauche, tantôt à droite, il épiait à travers les buissons les allées et venues des agents. « Filons vite, Suzanne !» dit-il brusquement à la femme du promeneur. Avant qu'Arnold eût eu le temps de revenir de sa stupeur, il se trouva seul dans l'allée déserte. Fou de terreur, il guetta à son tour la marche de la police. « Cette fois, je suis pris, » balbutia-t-il. « On me demandera ce que je fais là. On ne me croira pas lorsque je dirai la vérité. Mon Dieu, que faire ?» Il voulut courir, mais la peur de se trouver face à face avec un agent le retint. Soudain, il entendit une voix. « Où peuvent-ils bien être » demandait-elle. L'intention de se montrer, d'indiquer la direction qu'avaient prise le maître chanteur et la jeune femme, de s'attirer la reconnaissance de la police en lui rendant service, effleura son esprit. Mais il n'en fit rien. Immobile, il attendait. Soudain, ses forces l'abandonnèrent. Il tomba à terre. Quand il revint à lui, le jardin était silencieux. Il se leva lentement, enleva une à une les feuilles mouillées qui s'étaient collées à ses vêtements, se frappa à plusieurs reprises le visage afin de bien reprendre conscience. Puis, avant de se remettre en route, il regarda longuement la place où il était tombé afin de la reconnaître si, un jour, il revenait la voir. Tout en marchant, Arnold s'était rapproché des Halles. Il espérait trouver, au milieu de cette animation nocturne, quelques bienfaits à faire. La dernière tentative n'avait évidemment pas été couronnée de succès. Mais il n'était pas de ces hommes qui se découragent après un échec. Il continuait donc sa route sans trop penser. La scène qui s'était déroulée dans le jardin du Grand Palais appartenait déjà au passé. Bientôt, il se trouva devant la bourse du commerce. Il y avait bien des vagabonds qui traînaient un peu partout ou qui dormaient dans des encoignures sur de la paille. S'approcher de l'un d'eux, lui donner ses quelques billets de 100 francs, puis s'éloigner sans attendre un remerciement, eût été un geste qui n'eût pas manqué d'une certaine grandeur. Mais quel soutien aurait-il pu attendre par la suite d'un homme d'aussi modeste condition? La police ne découvrirait-elle pas plutôt en celui-ci un complice et ne lui ferait-elle pas tout bonnement subir le même sort qu'Arnold? Une bonne action n'exige-t-elle pas, avant d'être faite, autant de prudence qu'une mauvaise? Soudain, il comprit que l'heure d'agir avait sonné. Quand nous souffrons, seuls ceux qui souffrent également peuvent nous soulager. Sur le rideau de fer aux trois quarts baissé d'un petit café, Arnold venait de lire « Fermé pour cause de décès ». Il y avait de la lumière. Des bruits de voix venaient à ses oreilles. Il se glissa à l'intérieur. Plusieurs personnes parlaient doucement. En apercevant le nouveau venu, l'une d'elles s'écria « Vous ne savez donc pas lire? Le café est fermé. Nous ne servons rien. » « Je sais lire, » répondit Arnold. « C'est justement pour cela que je me suis permis d'entrer. J'ai pensé que peut-être, en une telle circonstance, une petite aide pécuniaire vous serait utile. » Tout le monde se regarda avec étonnement. « Est-ce que vous avez l'intention de plaisanter ?» demanda avec dureté une sorte de fordéal. « Il faudrait nous le dire tout de suite, car dans ce cas, je vous apprendrai à respecter le malheur d'autrui. » Arnold ne se démonta pas. Il avait bien conscience de la bizarrerie de sa démarche, mais d'autre part, il n'avait pas le choix. Dans sa hâte de venir en aide à ses semblables, c'est-à-dire à des gens qui n'ont rien de commun avec ces miséreux qui se dérobent au moment où on a besoin d'eux, il n'avait pas hésité à s'immiscer dans cette famille en deuil. « Moi aussi, je souffre, » continua-t-il. « Je sais donc combien il est doux de voir venir à soi un ami imprévu. Je ne vous connais pas, c'est vrai. Aussi, je m'excuse de m'introduire de cette manière chez vous. Mais en passant devant votre demeure, il m'est apparu qu'il y avait derrière ce rideau de fer des gens qui souffraient, eux aussi, et de qui, par conséquent, je n'étais pas si éloigné qu'on pourrait le croire. » Le groupe avait écouté ce langage avec étonnement. malgré l'application avec laquelle tous observaient Arnold, il n'avait pu discerner de moquerie. Aussi, avant de se fâcher, attendait-il une parole, un geste, qui eût trahi la vraie raison de cette immixtion. La curiosité était plus forte que la douleur offensée, que l'instinct qui leur commandait de se tenir sur leur garde. « Oui, continua Arnold, j'ai pensé qu'en venant à vous, je faisais une bonne action. Vous souffrez, je suis venu vous dire que vous n'étiez pas seuls à souffrir. » Cette parole maladroite fit naître immédiatement un soupçon dans la famille. L'intrus n'était qu'une sorte d'escroc. En quête d'argent, il croyait devoir en obtenir plus facilement auprès de gens malheureux. Avec un ensemble tout familial, le groupe voulut montrer tout de suite qu'il n'était pas dupe et que les belles phrases ne leur en imposaient pas. « Tu peux retourner d'où tu viens, » fit le fort des Halles avec méchanceté. « Nous avons autre chose à faire en ce moment que de donner de l'argent à des paresseux de ton espèce. Tu ferais mieux d'aller travailler et de gagner de quoi t'acheter un pardessus. » Comme Arnold ne bougeait pas, il se leva. « Veux-tu t'en aller, oui ou non ?» Le jeune homme tendit la main en signe d'apaisement. Il n'y a sans doute rien qui déplaît autant aux petites gens que ceux qui leur parlent un langage élevé sans qu'aucune apparence de fortune leur en donne le droit. La famille en deuil ne voyait en Arnold qu'un vagabond intrigant, essayant de se faire passer pour quelque bienfaiteur, à seule fin de mendier plus facilement. « Qu'est-ce que tu attends pour partir ?» continua le fort des Halles avec plus de violence et en fermant le poing. Loin de refroidir les nobles sentiments d'Arnold, cette injonction ne fit qu'accroître sa soif de générosité. Il lui était doux de s'entendre injurier. Cela donnait encore plus de grandeur à sa belle action. Maltraité, méprisé, injurié, il ferait quand même le bien. N'était-ce point d'une beauté apte à lui conquérir l'indulgence, la pitié de ses juges ? « Je ne partirai pas, » dit-il avec emphase, « ou du moins, je ne partirai que lorsque vous vous serez rendu compte à quel point je compatise à vos maux. Mes vêtements, ma fatigue, vous donnent peut-être à croire que je ne suis qu'un pauvre vagabond qui vient mendier. Sachez que je n'ai pas dormi depuis 3 jours, ni mangé, et que, dans ma détresse, j'erre seul par les rues, sans souci de la pluie ni de personne. Mon heure viendra, et elle viendra d'autant plus vite que vous m'écouterez avec attention. « Veux-tu sortir d'ici, espèce de fou ?» cria une des femmes qui était assise près du comptoir. « Je ne m'en irai pas, madame, avant de vous avoir fait le bien que je vous veux. Tenez, prenez cela et ne me remerciez pas. C'est inutile. Je n'agis pas pour qu'on me soit reconnaissant. » En disant ces mots, il s'approcha du groupe et, tirant de sa poche la liasse de billets de 100 francs, la jeta maladroitement sur la table. Une profonde stupeur se peignit sur les visages. S'il était une chose à laquelle personne ne s'attendait, c'était bien cet acte singulier. « Où as-tu trouvé cet argent ?» demanda un des hommes en le prenant, afin que, si sa question indiscrète et soupçonneuse amenait un revirement chez Arnold, ce dernier ne pût rentrer dans son bien. « Qu'importe, répondit le jeune homme, je vous donne cet argent, et cela parce que vous êtes dans la peine. Puisse-t-il atténuer quelque peu votre chagrin ?» Mais personne ne songeait à remercier notre héros. Ils avaient tous l'air d'attendre qu'il leur fournît des comptes, et celui qui avait empoché la liasse, comme un professeur confisquant l'objet d'une farce dont on ne connaît pas encore le coupable et qui servira peut-être à l'identifier, regardait Arnold avec méfiance, sans envisager pourtant une seconde de lui rendre cet argent mal acquis. « Allons, fils dernier, avoue donc tout de suite que tu as volé ces quelques billets. Cela vaudra mieux.